VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Cameroun, des échanges de tirs ont été entendus ce lundi matin à Boya, chef-lieu du Sud-Ouest, une des deux régions anglophones du pays, théâtre depuis fin 2017 d'un conflit entre l'armée camerounaise et les séparatistes armés. Selon l'AFP, citant des témoins contactés par téléphone, les tirs ont eu lieu dans les quartiers Moliko, Malingo et Bondouma de Boya, et ils ont maintenant cessé. C'est la première fois que ce genre d'incident est signalé à Boya, qui est quadrillé par un grand nombre de militaires camerounais depuis le début de la crise anglophone, fin 2016. Les combats sont maintenant quasi quotidiens en zone anglophone entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés, préconisant la restauration d'un éphémère État anglophone qui avait vu brièvement le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique et dont la capitale était Boya. Au Tchad voisin, les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux devant aboutir à la décrispation de la crise sociale sont bloquées. Les deux parties durcissent leur position et les perdants dans ce bras de fer sont les élèves qui doivent passer le baccalauréat édition 2018. C'est en effet dans ce contexte de profonde division des syndicats que le gouvernement continue d'organiser les examens et concours de fin d'année. Écoutez quelques enseignants tchadiens plutôt mécontents de la tournure que prennent les événements.
Nous sommes parents, mais il faut que les programmes soient quand même finis pour que nos enfants aient dignement leur diplôme.
Les camarades syndiqués qui sont sur le terrain, je dirais que c'était des traîtres.
C'est anormal ce que les autres ont fait. On dit solidarité, mais il n'y a pas la solidarité chez nous.
Des enseignants au Tchad. Gabon, le principal syndicat gabonais du secteur pétrolier, a lancé ce lundi un mot d'ordre de grève de 15 jours à Total Gabon, après l'échec des négociations concernant les conditions salariales. La grève couvrira l'ensemble des installations où opèrent les salariés de Total Gabon, a précisé aujourd'hui un communiqué de l'Organisation nationale des employés du pétrole, l'ONEP. Le groupe pétrolier français emploie quelques 300 personnes au Gabon, dont 60 expatriés, selon le secrétaire général de l'ONEP, Sylvain Mayabi. Au Mali, l'armée malienne est intervenue contre une milice de chasseurs traditionnels Dogon dans le centre du pays, dont elle a confisqué ou détruit de nombreuses motos. Samedi, nous sommes intervenus dans la localité de Kanou-Kombolé pour assurer la sécurité des populations, a déclaré à l'AFP une source militaire malienne. Les violences se multiplient depuis 3 ans dans le centre du Mali entre un peul traditionnellement éleveur, souvent accusé de grossir les rangs des djihadistes, et les ethnies Bambara et Dogon qui pratiquent majoritairement l'agriculture. Et toujours au Mali, les Maliens ne se bousculent pas pour retirer leur carte d'électeur à 3 semaines de l'élection présidentielle. L'administration met donc les bouchées doubles pour combler cette lacune. Pendant ce temps, la campagne bat son plein. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
Au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la mobilisation continue autour du retrait des cartes d'électeurs, car le taux de retrait national est de 14%.
Véritablement que les gens aillent retirer les cartes d'électeurs biométriques. Si quelqu'un veut voter, il doit avoir sa carte d'électeur. C'est la raison pour laquelle les OEC iront jusqu'au samedi 28 juillet pour dire aux gens d'aller retirer les cartes d'électeurs.
Afin d'accentuer cette sensibilisation, les femmes ont été sollicitées. Traoré Oumoutouré, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.
Les femmes doivent sortir, aller chercher leur carte d'électeur et aller voter. Et la plus grande chance pour les femmes d'aller prendre leur carte d'électeur et d'exercer leur citoyenneté. Elles ne peuvent pas dire qu'elles ont des conditions mauvaises, qu'elles ont tel ou tel problème sans avoir la carte. Et je pense que c'est l'occasion pour les femmes du Mali d'être ensemble en groupe et d'aller prendre leur carte d'électeur et voir les programmes qui marchent, les programmes qui parlent mieux, qui veulent renverser les tendances pour elle.
Sur le terrain, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta était dans le plus grand stade du Mali alors que son challenger de 2013, Soumaïla Cissé, avait investi le boulevard de l'indépendance. Tous les deux ont parlé du programme et sensibilisé leurs partisans afin qu'ils sortent massivement le 29 juillet prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Niger, 17 militants du groupe islamiste nigérian Boko Haram ont été condamnés à des peines de 2 à 7 ans de prison à l'issue d'une semaine de procès à Difa, dans l'extrême sud-est du pays. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le procureur de la République de Niamey. Sur 42 prévenus jugés, 17 ont écopé de 2 à 7 ans de prison, 21 autres ont été relaxés. à l'issue du procès qui s'est déroulé du 2 au 7 juillet, a précisé Tchaïbou Samna.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Érythrée et l'Éthiopie ont signé ce lundi à Asmara une déclaration conjointe formalisant leur rapprochement et stipulant que les deux pays ne sont plus en guerre. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre érythréen de l'Information, Yeman Grebe Miskel. Selon M. Yeman, ce texte paraffé par le président érythréen Isaias Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed déclare notamment que l'état de guerre qui existait entre les deux pays est arrivé à sa fin. Une nouvelle ère de paix et d'amitié s'ouvre, a souligné Yeman Gebremeskel sur son compte Twitter. Cette déclaration conjointe intervient au lendemain de l'annonce par le premier ministre éthiopien de la normalisation des relations de son pays avec l'Érythrée à l'issue d'une rencontre avec le président érythréen à Asmara. C'est une percée historique après 20 ans de relations chaotiques entre les deux voisins, Bagassi-Koura.
Cette annonce survient après des semaines de rapprochement entre les deux pays qui ont culminé avec des drapeaux éthiopiens flottant au vent et les acclamations de la foule massée le long des rues de la capitale érythréenne pour saluer Abiy Ahmed. Nous nous sommes mis d'accord pour la reprise du trafic aérien et naval pour la circulation des personnes entre nos deux pays et la réouverture des ambassades, a déclaré Abiy Ahmed à l'issue des discussions avec le président Isaias Afwerki. Plus tôt, les deux dirigeants s'étaient déjà mis d'accord pour établir les liaisons téléphoniques internationales entre les deux pays. La télévision officielle de l'Érythrée avait montré les deux dirigeants s'étreignant à l'aéroport. Une scène inimaginable il y a encore quelques mois. Les plus hauts dirigeants des deux pays ne s'étaient pas retrouvés depuis près de 20 ans. Le sommet de dimanche fait suite à l'annonce par M. Abiy le mois dernier de la volonté de l'Éthiopie de céder à l'Érythrée un territoire frontalier disputé, un territoire que l'Éthiopie occupe toujours malgré un jugement d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU datant de 2002.
À noter que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu ce lundi à Addis Abeba et qu'il devrait y rencontrer ce soir le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, selon des sources onusiennes en Éthiopie. En Afrique du Sud, le fils de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, Doudou Zahane Zuma, a été inculpé ce lundi de corruption dans un des nombreux scandales liés à la famille controversée d'hommes d'affaires Gupta qui ont précipité la démission de son père en février. Âgé de 34 ans, Doudou Zahane Zuma est accusé d'avoir participé en octobre 2015 à une rencontre au cours de laquelle un des frères Gupta, Ajay, a proposé le poste de ministre des Finances à Msebisi Jonas, qui était alors vice-ministre. À l'issue d'une brève audience, un tribunal de Johannesburg a remis le fils Zuma en liberté sous contrôle judiciaire en échange d'une caution de 100 000 rands, soit environ 7 000 dollars. Doudou Zahane Zuma doit par ailleurs comparaître ce jeudi devant un autre tribunal pour avoir causé la mort accidentelle de deux personnes au volant de sa voiture en 2014. Actualité américaine maintenant, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré dimanche pendant plusieurs heures le bras droit du leader nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang. C'est pour parler plutôt difficile, vise à préparer une feuille de route afin que la dénucléarisation de la Corée du Nord prenne forme. Les détails avec Idrissa Sedoudia.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté hier la Corée du Nord à suivre l'exemple du Vietnam en forgeant une nouvelle relation avec les États-Unis, tout comme l'a fait Hanoï plus de 4 décennies après la guerre du Vietnam et l'engagement militaire américain dans ce pays. M. Pompeo parlait à Hanoï à l'issue de 2 jours de pourparlers à Pyongyang sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. Il a à ce propos minimisé les accusations de Pyongyang qui, qualifiant de regrettable ses pourparlers, a dit que les États-Unis avaient fait des demandes similaires à celles de gangsters en réclamant l'abandon de son programme nucléaire.
États-Unis toujours pour terminer, le président Donald Trump devrait annoncer ce lundi son choix pour le poste de juge à la Cour suprême, actuellement vacant. Un magistrat qui sera vraisemblablement très conservateur et dont les décisions seront lourdes de conséquences pour l'évolution de la société américaine. Cette nomination découle du départ à la retraite inattendu du juge Anthony Kennedy, l'un des 9 sages de la haute cour nommé à vie. Ce sera le second poste devenu vacant depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump qui a déjà choisi un jeune conservateur Neil Gorsuch en 2017. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.